Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce café littéraire qui va tourner autour de la guerre de 14-18, mais vous allez voir qu'on va l'aborder de manière assez différente en fonction des auteurs qui sont présents, puisqu'on aura du roman historique quand même, et puis on aura une uchronie avec Alain Grousset, pour le roman historique ce sera Charlotte Bousquet, et puis on aura un roman fantastique avec Paul Bern et Silène Edgar, puisque c'est un roman écrit à quatre mains, comme on dit, dont on vous expliquera si vous ne le connaissez pas encore, mais le livre est quand même déjà un beau succès, le principe. Soyons rationnels, commençons avec Charlotte Bousquet, puisqu'on va rentrer dans l'univers historique, puisque vous êtes Charlotte, des auteurs présents ici, celle qui est la plus proche de la réalité dans votre roman, là où tombent les anges. Est-ce que vous pouvez nous planter un peu le décor et nous expliquer un peu quelle était l'idée de départ ?
Alors, le décor, c'est Paris entre 1912 et 1920. Donc, on suit en fait le destin de trois jeunes femmes de la fin de la Belle Époque, donc à la Première Guerre mondiale et donc l'après-Première Guerre mondiale. Et l'idée, en fait, l'idée n'avait au départ rien à voir avec la Première Guerre mondiale. L'idée, je voulais écrire un roman qui se passe en Argentine et qui parle des origines du tango. Le truc, c'est que le personnage principal de ce roman fuyait la France pendant la Première Guerre mondiale. Donc forcément, j'ai commencé à creuser. En parallèle de ça, je me documentais pour écrire un roman donc, de toute façon, qui n'est même pas l'état d'embryon sur la Seconde Guerre mondiale et le travail des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça a donné ce parcours de trois vies, ce destin de trois femmes donc, qu'on suit à Paris avec effectivement à la fois, je dirais, le côté vraiment très, très dur du travail en usine, puisque dans des conditions, c'est 12 heures par jour, payer une misère, dans des conditions de travail sans aucune précaution. Donc les femmes étaient, vous savez qu'il y avait toujours ce côté, vous me dites si je m'étale trop.
Non, je t'en prie.
Mais il y avait toujours ce côté des journaux et puis des poilus qui disaient « Ah, mais les ouvrières, elles ont de l'argent, elles s'achètent des oranges, elles se maquillent et tout ça. » Donc la vérité, c'est quand même c'est des filles qui se brûlaient à l'acide, qui avaient des problèmes de peau et qui mouraient dans des explosions parce qu'il n'y avait aucune sécurité. C'est aussi une période où, en fait, il y a eu des vraies tentatives de féminisme. Le féminisme, en France, est toujours à 4 km derrière les autres, mais en tout cas, avant la guerre, donc il y avait ce début de féminisme. Il y avait une internationale des femmes qui avait été créée, qui a été complètement suspendue au début de la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, c'est ce qui a permis aussi aux femmes. Les femmes ont aussi été donc obligées de travailler. Ça a été un élan génial. Et à partir de 1917, on leur a demandé d'écarter les cuisses et de faire des enfants. Et surtout de se taire. Et 1920, l'avortement est puni d'emprisonnement. Donc voilà. C'est un peu tout ce contexte-là.
Eh ben, on va y revenir tout au long de cette table ronde. Je ne sais pas auquel des deux je vais m'adresser, mais en tout cas, voilà, ou à Silène ou à Paul. Pareil, même question. Dans quel contexte est-on dans 14-14 et puis, voilà, quelle était votre idée de départ et comment est né ce projet ?
Dans 14-14, on ne va pas voir, comme dans le roman de Charlotte Bousquet, le déroulement de la guerre, puisque c'est terminé en août 14, juste avant le début de la guerre. Ce qui nous intéressait dans ce roman, c'était de comparer les vies quotidiennes de deux personnages qui ne sont pas des hommes politiques, qui ne sont pas des gens éclairés au sens où ils ont conscience des grands mouvements internationaux, des enfants de 13 ans qui sont moyens, quoi, des enfants normaux, ordinaires, qui ont leur petite vie tranquille et qui vont pouvoir, par le biais d'une boîte aux lettres magique, donc le seul élément fantastique du roman, s'échanger des lettres et comparer leur vie. D'abord, dans un premier temps...
Sans le savoir.
Voilà, dans un premier temps, en ne le sachant pas, donc avec des petits quiproquos du genre « Quel est ton numéro de téléphone ? Que je puisse t'envoyer des SMS ?» Et l'autre répondant « On n'a pas le téléphone encore au village. » Ou l'un envoyant un billet de 20 euros à l'autre pour l'aider, parce qu'il a besoin d'argent. Et l'autre lui renvoyant le billet en disant « Il est très joli ce billet, il vient de quel pays ?» Et donc, le but était à la fois un but pédagogique pour montrer... la vie quotidienne de ces gens en 1914 et à la fois un but d'amusement pour attirer par l'enfant de 2014, le collégien d'aujourd'hui, à lire cette histoire et à s'intéresser à cette période historique.
Parce que j'ai peut-être m'adresser à Silène là pour le coup, parce que finalement, il y a peut-être un manque de connaissances, mais c'est normal, ce sont encore ça s'adresse à un jeune public, mais aussi peut-être un manque de recul par rapport aux événements.
Je crois que notre particularité, c'est que nous, on a eu aussi ces récits par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Les enfants d'aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui, ils n'ont plus cet accès direct à la mémoire. Donc, ça leur semble particulièrement lointain. En gros, tout ce qui a plus de 20 ans, de toute façon, c'est un petit peu comme les dinosaures. C'est comme ça, ils sont à cet âge-là. Voilà. Donc, la guerre de 14-18 n'avait pas forcément de sens et ça nous semblait vraiment important. Au moment du centenaire, de leur dire que ce n'était pas juste une fête de vieux pour commémorer la fin d'une guerre qui ne leur parlait pas, qu'ils pouvaient trouver des points communs avec un garçon de 1914. Donc, on a aussi voulu que ce soit accessible, comme on ne raconte pas la guerre directement, dès le CM2, parce que dès l'âge de 10 ans, les enfants voient ça à l'école primaire. Et donc, voilà, c'est au programme, ça les touche pas toujours, et pour autant, avec le centenaire, ils en entendent beaucoup parler. Donc, le livre est arrivé là-dedans aussi, dans cette idée de leur montrer que c'est pas si éloigné. Ce sont des questions qui les touchent encore aujourd'hui.
Là aussi, on va évidemment développer tout ça dans le courant de cette table ronde. Et puis, on va finir ce premier tour de table avec Alain Grousset. Je suis content, on va pas parler d'Égypte antique pour une fois, tous les deux, ça va nous changer. Et on va parler, alors pour le coup, là c'est encore plus loin que ce que disaient Silène et Paul, vous, carrément la guerre, elle n'a pas eu lieu du tout.
Oui, je ne sais pas ce que je fais dans ce débat finalement. Hein. Oui, la guerre n'existe pas, la guerre de 14-18. Tout est parti de Flammarion qui m'a demandé un livre sur la guerre de 14-18.
Donc j'ai pour le centenaire, comme beaucoup.
Le centenaire, alors, bon, comme il y en allait avoir 200, j'ai dit, ben, moi, je vais prendre le contre-pied, la guerre. Et à partir de ce moment-là, il faut être sûr du coup. Quoi. Et comme tout démarre de l'attentat de Sarajevo, en cherchant un peu, je me suis aperçu qu'effectivement, ça a été vraiment un poil de cheveux que cet attentat rate. Hein, puisque, enfin, je peux vous raconter vite fait, les Serbes qui avaient décidé de tuer François Ferdinand, qui vient ce jour-là avec son épouse, pour la première fois de sa vie, elle participe à une cérémonie. Et alors donc, ils se disposent tout le long du cortège. Le cortège arrive, les trois premiers ont peur et ne tirent pas. Le quatrième, lui, y va et lance une grenade, mais qui rebondit sur le capot de la voiture et qui va faire exploser la voiture derrière. Donc du coup, Louis Ferdinand s'en va, va à la cérémonie, très en colère, mais personne n'est au courant de cet attentat. Et donc les autres ont entendu le boom qui était plus loin, donc ne tirent pas non plus. Enfin bon, tout est raté. Et puis le chef de l'attentat, lui, il attend un peu dans la ville, il ne sait pas trop. Et il prend un sandwich. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la voiture de Fernand qui revient parce qu'il avait décidé d'aller à l'hôpital pour voir les blessés de la grenade. Donc là, il s'approche et il les tue à bout portant.
Quand donc, vous nous racontez ça, c'était
terrible. Mais ça a été vraiment un pouillème.
Oui. Voilà. Parce donc, qu'on se dit que pour vraiment rien, on est passé à côté peut-être d'événements. Enfin oui, voilà, qu'on a eu droit à des événements.
Tout le monde avait plus ou moins envie de rentrer en guerre aussi, il ne faut pas y aller.
Chercher l'argument pour.
Mais en tout cas, c'est.
Alors ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la guerre n'a pas eu lieu. Mais qu'à la place, il y a eu autre chose. C'est-à-dire que le monde n'a pas évolué tel qu'on peut l'imaginer.
Non, il faut s'imaginer entre l'imagino, justement, que la France.
J'ai pensé à vous en le lisant, parce que je me suis dit que vous alliez faire plaisir aux Lorrains qui nous écoutent.
Oui, bah peut-être.
Avec une ligne Maginot infranchissable.
Donc c'est devenu la Corée du Nord ou la Corée du Sud, entre l'Allemagne, et tous les efforts financiers de ces deux pays se mettent à perfectionner ce mur, toujours infranchissable, toujours mieux et tout. Donc du coup, il reste Calais très 19e, alors que le reste du monde évolue. Et voilà, je mets mon
héros. Et on se retrouve en guerre froide.
Tout à fait.
Voilà. C'est assez impressionnant de voir ça. C'est-à-dire que finalement, au lieu de faire évoluer le monde à partir de la Première Guerre mondiale, on arrive quasiment à une situation qu'on aura connue dans l'histoire réelle, avec des éléments différents, mais quelques années plus tard.
Donc il y a le côté uchronique, mais il y a, dans ce monde complètement uchronique, il y a quand même des TGV, qui sont des trains à grande vapeur, mais il y a des TGV à l'époque.
Charlotte Bousquet, la particularité de vos trois héroïnes, et en particulier celle qui vraiment sous-tend le récit, c'est qu'elles ont des destins assez sensiblement différents et celle, alors vous allez peut-être me dire, c'est peut-être pas forcément celle que vous verriez comme l'héroïne principale, mais on ne sait jamais. C'est la femme soumise, finalement.
Oui, si, c'est elle, oui. Solange.
Solange. Alors, qui est-elle, Solange?
Oula. Solange, c'est une jeune fille qui est... qui n'est pas très sûre d'elle, qui est en fait, depuis son enfance, victime d'un père alors abusif, non pas dans le sens où il est incestueux ni quoi que ce soit, mais simplement qui est un monsieur qui s'est laissé complètement ronger par l'alcool, qui a perdu son boulot. Ils habitent Auvers-sur-Oise, qui est la ville des peintres, mais lui, il est vraiment... il considère que de toute façon, tout ce qui est lié à l'art est vraiment complètement...
Dans sa période bleue, lui.
Voilà, mais alors vraiment très très bleu, hein.
Oui, bleu sombre. Les bleus qu'il inflige.
Voilà. Et c'est exactement ça, bleu rouge. Et en fait, elle a une amie qu'elle admire, dont elle est un peu amoureuse, Lily, qui, elle, est vraiment, au contraire, tout ce qu'on peut imaginer de, en fait, une jeune fille un peu délurée qui pose pour des peintres, qui, elle, va aller à Paris pour essayer de réaliser son rêve, qui va devenir riche et célèbre, en gros, c'est ça. Et Solange la suit parce que c'est le seul moyen pour elle de finalement d'échapper à son père. Mais en fait, je ne sais pas si vous savez, mais dans les mécanismes de violence, en fait, on a vraiment tendance à reproduire la même chose malgré soi, parce que c'est un cadre qui est extrêmement rassurant. Et en fait, Solange, qui au départ, effectivement, devient cousette dans les ateliers du printemps, qui va dans les bals poursuivre son amie Lily, éventuellement pour trouver l'amour, et voilà, qui rencontre d'ailleurs quelqu'un, finit par épouser Robert Maximilien, qui est un homme qui est un peu à l'image de son père, la différence c'est qu'il ne boit pas. Voilà, et rencontrer Tante Emma, qui est une vieille dame à Cariat, qui est une pianiste.
On va reparler de Tante Emma.
D'accord, on reparlera de Tante Emma. Donc le parcours de Solange, désolé. Après, c'est vraiment le départ de son mari pour la guerre et le moyen, finalement une porte ouverte vers une respiration, vers le moyen de devenir elle-même, de se libérer finalement de cette espèce de cycle infernal de la soumission et de la violence. Et Solange est quelqu'un qui, moi j'aime bien parce qu'elle met beaucoup de temps à sortir de sa carapace. Elle y laisse beaucoup de plumes, mais finalement, elle arrive à devenir, pour moi, un des personnages les plus, les plus complets que j'ai pu écrire.
Il y a une vraie quête d'émancipation envers elle qui est vraiment passionnante.
Ouais, ouais, c'est passionnant à écrire aussi.
Elle arrive à aller contre ses propres préjugés, finalement, qui sont tellement ancrés en elle qu'il faut déjà qu'elle s'en débarrasse avant d'envisager quoi que ce soit.
Et ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup beaucoup de temps, mais elle y arrive.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que finalement, la guerre, elle va lui apporter de l'aide, indirectement?
Alors, au départ, si, sauf que quand on se plonge vraiment dans l'histoire des femmes pendant la guerre, on se rend compte que Solange, c'est une miette dans un océan de femmes auquel la guerre a permis de se libérer justement d'énormément de carcans, carcans maritaux, carcans de sociaux également, de s'émanciper, d'apprendre des métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Il y a eu énormément de divorces après la guerre, alors qui sont dus effectivement au fait que les soldats qui revenaient des tranchées étaient complètement traumatisés, mais qui venaient aussi du fait que les femmes avaient enfin pu respirer. C'est vraiment un truc assez terrible dont on se rend compte, mais qui est réel.
De l'expression, il nous faudra une bonne guerre, quoi.
Écoute, généralement, c'est plutôt pour réduire le chômage, mais après, on va trouver, je suis cynique. Mais
c'est, voilà. C'est vrai que moi, ça, c'est vraiment. Je me permets de poser la question, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé dedans, d'avoir ce côté de la boucherie totale d'un côté, et en même temps des aspects positifs presque que ça apporte. Peut-être à un peu plus long terme, on va dire, mais.
Oui, mais c'était. Je dirais que j'ai essayé vraiment de creuser ce côté-là et de m'intéresser vraiment à l'histoire. L'histoire d'émancipation des femmes pendant la guerre, donc des histoires de violence, de la manière aussi dont les femmes après ont été complètement occultées après la guerre. Et voilà, je ne sais plus si je réponds à votre question, mais voilà.
C'est très
quoi.
Bien.
Oui.
Je peux rajouter que la Seconde Guerre mondiale a aussi émancipé les femmes, puisqu'elles ont obtenu le droit de vote. Mais enfin, il a fallu quand même attendre dans les années 70 pour qu'elle puisse disposer d'un carnet de chèques sans que le mari soit d'accord ou pas d'accord, quand même. Donc, il en faut des guerres, quand même.
Pour 14-14, on a donc ce projet qui est assez particulier. Alors, justement, comment est-ce que vous avez travaillé? J'ai demandé plus simplement qui est Adrien et qui est Adrien. En plus, ils ont le même prénom, mais ça ne s'écrit pas pareil, je précise.
Paul et Adrien, moi je suis Adrien. Voilà. Non, donc Paul s'est chargé de la partie de 2014, donc l'Adrien sans H. Et moi je me suis occupée de l'Adrien avec un H comme l'histoire. Voilà. On avait envie de choisir un prénom identique et en même temps on a ce petit, voilà, ce petit H qui va permettre de les différencier. Après on a eu un excellent travail aussi de l'équipe de fabrication qui permet de différencier les deux avec des polices d'écriture différentes.
Qu'on voit sur la couverture avec la, voilà, typographie du titre.
Et donc ça a facilité un peu les choses parce que c'est pas forcément évident, surtout pour des jeunes lecteurs, de passer de l'un à l'autre. Hein. Pour certains, ça a pu être un petit peu plus compliqué. Donc on a joué là-dessus. Voilà.
Je me souviens quand j'étais gamin qu'on m'avait fait écrire à la plume. Je pense que c'est un bon exercice à faire pour se rendre compte de la différence des choses parce que c'était vraiment très compliqué. Ça veut dire que vous avez vraiment joué le jeu l'un et l'autre, que le livre s'est écrit au fur et à mesure comme presque une correspondance entre vous deux? C'est un peu plus compliqué que ça.
Il y a un peu cet aspect-là, oui, parce qu'à chaque fois qu'on écrivait un chapitre, on l'envoyait à l'autre, un peu comme une lettre. La seule différence près, que c'est une lettre que l'autre corrigeait sauvagement, avec des petits commentaires dans la marge, en permanence. Donc oui, on avait quand même imaginé chaque chapitre ensemble avant de l'écrire. Et après l'avoir écrit, on avait une relecture commune et une correction commune. Mais oui, il y a un peu cet aspect épistolaire, effectivement, entre les deux auteurs. Silène et moi, on est amis depuis très longtemps et on écrit sur deux amis qui s'écrivent. Il y a un jeu de miroir qui nous a semblé intéressant.
Pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que Paul avait du mal, comme lui, ça se passe aujourd'hui, c'était compliqué pour lui d'écrire le chapitre avant moi. Donc du coup, très rapidement, on s'est retrouvé, par exemple, moi je faisais le 6, je renvoyais, il écrivait le 5 ensuite, il me renvoyait le 5 et le 6, et moi je faisais le 8, voilà, donc on a avancé comme ça.
Parce que les chapitres impairs sont les chapitres contemporains, et les chapitres pairs,
voilà,
les chapitres 100 ans en arrière. Donc, au niveau du vocabulaire, est-ce que, là je parle plutôt à Silène du coup, au niveau du vocabulaire, des tournures de phrases même, il y a...
Non, parce que de toute façon, on nous l'a déjà demandé. Si j'avais dû écrire comme il parlait, j'aurais écrit en picard. Voilà. Donc l'objectif, évidemment, on a essayé de faire attention et de chasser des néologismes qui auraient pu paraître étonnants. Il y en a quand même, mais qui n'étonnent pas. On s'adresse à des lecteurs d'aujourd'hui, dans une langue d'aujourd'hui. Après, évidemment, on essaye quand même de ne pas en rajouter trop. Et puis, pour créer un contraste aussi avec 2014, on s'est un petit peu amusé là-dessus. Mais c'est dans une langue actuelle.
Alain Grousset, dans cet univers particulier qu'on a expliqué, donc de guerre froide avec une France et une Allemagne séparées par un no man's land entre deux murs, hein, pour expliquer les choses, vous nous tissez un véritable thriller d'espionnage. Là encore avec une héroïne d'ailleurs, puisqu'on parlait avec Charlotte des héroïnes. Quelle est-elle justement cette héroïne? Qui est-elle?
Oh, c'est une jeune femme du 19e avec toutes ses réserves et tout, et qui va, par la force des choses, être basculée dans quelque chose qu'elle n'avait pas du tout prévu, simplement parce qu'elle est alsacienne et qu'elle est parfaitement bilingue. Donc ça intéresse les services secrets français pour qu'elle puisse passer le mur.
Il faut rappeler qu'on est sur un statu quo par rapport au territoire de 1870,
oui,
donc
que
l'Alsace et la Lorraine sont territoires allemands. Hein.
Et donc elle est venue avec sa famille en réfugié en France, le temps de en attendant que ce mur, un jour, hypothétiquement, soit détruit. Donc elle passe après par l'Angleterre, où là, d'un seul coup, elle prend une belle claque parce qu'elle voit que le monde a continué d'évoluer alors qu'elle est restée dans un monde archaïque, elle. Et puis, donc, cette histoire d'espionnage, c'est parce que, effectivement, l'Allemagne est en train de préparer la bombe atomique. Et du coup, donc, ça risque de changer un peu les choses. Donc, il faut absolument contrecarrer ce projet maléfique. Donc, elle va se lancer dans l'aventure. Et donc, du coup, s'émanciper, elle aussi. On en rejoint ce que dit Charlotte.
Oui, parce qu'elle a un sacré caractère, la demoiselle.
Oui, bah, je crois qu'il faut. Le caractère des gens se révèle au moment des épreuves. Hein. Il y a des gens qui sont sidérés face à, je sais pas, un accident de circulation. Ils regardent et ne bougent pas. D'autres agissent. Après, même si ça les rend malades après, mais au moment où ils agissent, c'est face à chacun que l'on agit. Voilà. Et ça, c'est inné en nous et on ne peut rien y faire.
Est-ce qu'elle a un idéal particulier lorsqu'elle se lance dans cette aventure ou est-ce que c'est simplement justement l'idée, parce que ça joue quand même un rôle important, c'est effectivement d'aller quand même récupérer l'Alsace et la Lorraine au départ aussi.
Oui, parce que le patriotisme est resté bien vivant et entretenu par les différents gouvernements, hein, de toute façon, parce que c'est la seule manière de tenir les gens, on le voit bien en Corée du Nord, s'il n'y a pas l'embrigadement qui suit derrière, ça exploserait. Donc il faut absolument que Dieu et le gouvernement soient loués en permanence. Donc elle a ça en tête, mais bon, face aux événements et en voyant autre chose, ça va forcément changer son caractère et sa façon de voir et sa façon d'être.
Charlotte Bousquier, parlons de ton thème alors, puisque le sujet a été déjà brièvement abordé. Non mais je le disais sérieusement parce que moi c'est probablement peut-être le personnage qui m'a le plus ému et le plus touché. Je trouve que c'est un très beau personnage.
J'adore Tantéma.
Bon. Qui est-elle, Tantéma ?
Tantéma, en fait, c'est une avant-gardiste. C'est une femme qui a une pianiste, donc spécialiste de Chopin, qui, à une époque où ça se faisait peu ou pas, en tout cas pas dans son milieu, a sacrifié sa vie de femme, mariée. Enfin, en gros, elle a tout donné à sa carrière. Elle s'est pas mariée, elle s'est pas occupée de toute façon, elle s'est occupée de rien. Elle a vécu en ayant des amants aussi. Et en même temps, elle ne l'a jamais vraiment assumé non plus. Donc c'est quelqu'un qui à la fois qui a eu en tout cas un éclat je dirais en tout cas européen puisqu'elle a joué jusqu'à Rome pour jouer du piano et qui en même temps très empêtrée dans plein de contradictions, la culpabilité justement de ne pas s'être conformée à ce qu'on attend d'elle et une culpabilité aussi vis-à-vis de son neveu donc Robert Maximilien dont elle a hérité, elle n'en voulait pas, qu'elle envoyait en pensionnat et dont elle ne s'est jamais occupée, qui ne l'a jamais intéressée, jusqu'au jour où elle rencontre, mais alors en même temps, je ne vais pas trop spoiler, oui. Bon, elle a eu un drame qui fait que de toute façon, elle a arrêté de jouer du piano, elle s'est repliée sur elle-même, et elle est devenue la vieille tante aigrie qu'on aime tant au début du roman.
C'est vrai qu'elle a un côté conte de fées, un peu la marâtre.
Ah, mais elle est. mais en même temps, elle est vachement attachante.
C'est la manière dont elle va se dévoiler qui est très intéressante.
Ouais. Qui finalement va être un des personnages qui va le plus aider Solange en fait à se débarrasser de tout ce qui est cette espèce de tous ces mécanismes en fait qui l'empêchent de devenir elle-même grâce à la musique en fait. Elle va lui apprendre à jouer du piano, elle va faire d'elle finalement son héritière d'une certaine. Bon, d'ailleurs, elle fait d'elle son héritière, mais aussi vis-à-vis du piano et en échange, je pense que Solange lui apporte une humanité qu'elle a perdue.
C'est vrai que la relation entre les deux personnages est de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, ce qui ne veut pas dire que c'est sans heurts, parce que c'est quand même aussi
une
relation...
Elle a un petit côté Tati Daniel, quand même.
Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment un personnage marquant dans cette histoire, et pas uniquement à côté de sans oublier qu'elle a quand même un rôle décisif également dans l'histoire de Solange.
Oui, dans le fait que Solange décide de toute façon de rester. Il y a son rapport aussi à la drogue. Ça m'a permis aussi d'introduire la drogue, le donanum, la manière dont on ne soignait pas les gens d'ailleurs. Et voilà.
Silène, tout à l'heure, a évoqué le Picard, qui aurait pu être la langue dans laquelle aurait écrit Adrien avec un H. Alors justement, parlons un peu de géographie, parce que ce n'est pas non plus anodin dans l'histoire du livre. Où vivent les deux personnages ?
Donc, s'il aurait parlé Picard, c'est qu'ils vivent en Picardie.
C'est mieux.
Voilà.
C'est plus pratique pour arriver à se faire comprendre.
En Picardie, et plus précisément sur ce petit chemin campagnard qu'on appelle le chemin des dames, et qui a été le théâtre de deux très très sanglantes batailles en 1914 et en 1917, et qui est resté là une ligne de front quasiment jusqu'à la fin, hein, sur laquelle sont morts, je crois, 200 000 soldats. Donc ce petit village, qui est un village de campagne assez typique en 1914, un village de, je ne sais plus combien, 800 habitants, je crois, très très vivant, va être complètement ravagé, détruit pierre par pierre, il n'en restera rien. On a encore des photos d'époque. On a pu comparer d'ailleurs les photos d'avant et d'après. C'est très impressionnant. Et ça, c'est le village où vit l'Adrien de 1914, celui qui a un H, avec un H, qui court donc le danger de voir son village détruit et toute sa famille massacrée, ou du moins exilée. Et l'autre Adrien habite à 20 km au nord, dans la ville de Laon, qui est une petite ville, aujourd'hui préfecture de l'Aisne. Et une ville de Laon qui, elle, a été occupée par les Allemands pendant 4 ans. Quelque chose dont on parle assez peu, mais pendant la Première Guerre mondiale, 10 départements français ont été occupés par les Allemands, avec un certain nombre de civils qui étaient obligés de travailler très durement hein, pour les Allemands, avec des exécutions, etc. Donc le choix de la région géographique était évidemment à dessein. Hein, c'est une des régions qui a le plus souffert de la guerre en
Et
France.
On peut même ajouter qu'on est dans une proximité avec Paris qui est quand même assez inquiétante, puisque si la ligne de front se focalise aussi sur cet endroit, c'est pas un hasard, c'est que si elle rompt à cet endroit-là, les Allemands sont dans la journée quasiment à Paris.
Exactement, c'est tout près de Paris. D'ailleurs, l'idée d'Adrien avec un A, c'est de dire à son ami, quand il se rend compte qu'ils sont de deux époques différentes, va à Paris, fuis, c'est pas très loin, et là au moins tu seras en sécurité, et les Allemands ne seront jamais à Paris. Mais effectivement, si la bataille était si vive à cet endroit, notamment en 1914, c'était pour arrêter les Allemands avant leur arrivée sur Paris.
On a choisi Corbeny aussi parce que c'est à côté de Craonne. Alors, on n'a pas pris Craonne parce que ça aurait été symboliquement trop fort et que, voilà, on n'a pas choisi Craonne pour ça.
Peut-être brièvement expliquer pourquoi.
Pour la chanson de Craonne, hein, qui était donc une chanson de résistance, le moment où les soldats, les premiers temps, les soldats allaient au front et puis voilà, ils allaient se battre, c'était comme ça, c'était leur devoir. Et puis finalement, ils ont quand même fini par se soulever, par comprendre, par essayer de se battre contre ce massacre, contre les gens qui ordonnaient ce massacre. Donc la chanson de Craonne est restée un symbole des insurgés, de ces gens qui sont morts fusillés, qu'on retrouve dans le travail de Jean-Pierre Jeunet au cinéma à partir du long dimanche de fiançailles de Jacques Rizzo, par exemple. Voilà. Et la chanson de Craonne, elle est d'ailleurs chantée dans le film de Jeunet.
J'avais une question et je l'ai oubliée, mais ça va revenir. Oui, Silène, c'est aussi l'occasion finalement, puisque il y a toujours dans vos livres, quelque chose de très pédagogique. C'est l'occasion justement de parler de ces batailles du chemin des dames et d'aborder ces questions qui sont assez particulières sans forcément tomber dans la description pure des batailles et de l'horreur, mais de faire presque un cours d'histoire finalement.
Oui, alors c'est dans un passage, c'est un de mes passages préférés, je peux le dire parce que c'est Paul qui l'a écrit. En fait, on ne parle pas de la guerre dans la partie 1914, mais on comprend ce qui s'est passé parce que l'Adrien d'aujourd'hui, alors qui ne fait pas grand-chose à l'école, s'intéresse de fait à ce qui arrive à son ami et va présenter aux autres élèves un exposé extrêmement complet et passionnant sur ce qui est arrivé. Et donc, c'est à travers le regard d'Adrien d'aujourd'hui qu'on mesure l'horreur de ce qui se prépare. Alors, on a un autre jeu comme ça. L'Adrien d'aujourd'hui, il habite rue Jean Jaurès. Ce qui n'a pas beaucoup de sens pour un enfant d'aujourd'hui, parce que Jean Jaurès, bon voilà, pourquoi pas n'importe quoi d'autre.
Hein, encore vivant en plus au moment de la.
Et ce qui n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui n'en a pas encore pour l'Adrien de 1914. Et c'était une façon aussi de montrer que ces gens-là, dans ces petites gens de Corbeny, pouvaient voir quelques signes. Hein, le fait que la conscription passe à 3 ans, qu'il y ait des attentats au Maroc, enfin, il y a eu des choses qui ont précédé quand même cette guerre. C'est pas arrivé de rien et c'était préparé par la France. Hein. Ils ont pas fait passer le service militaire à 3 ans pour rien. Hein, ils l'ont augmenté largement. Mais voilà, en 1914, ça avait pas encore de sens pour Adrien et en 2014, ça en prend pour l'autre Adrien par l'école, par l'exposé et du coup, on voit la guerre par ce biais-là.
L'école aussi, en 14, magnifiait et récupérait cette histoire d'Alsace-Lorraine en permanence. C'était très patriotique. On chantait la Marseillaise. Les maîtres d'école montraient la carte amputée de la France. Enfin bon, ça y allait quand même, hein, du point de vue.
On a une illustration. C'est un roman qui est illustré. Et on a notamment une illustration d'époque où on voit le soldat français au chevet de l'Alsacienne endormie, comme le prince charmant allant délivrer la princesse. Cette image est particulièrement frappante. On a l'impression que la guerre, peut-être qu'on ne la préparait pas en 1914, mais enfin, on y pensait quand même depuis longtemps.
On voit finalement, en un siècle aussi, peut-être une évolution des mentalités par rapport à ces sujets-là, à travers le regard des deux enfants. Parce qu'on a quand même un enfant une période, on l'a dit, assez troublée, puisque finalement, la précédente guerre n'était pas si lointaine. Et puis, on a un enfant qui, lui, a grandi, qu'on le veuille ou non, peut-être pas dans une société tout à fait exemplaire, mais en tout cas dans une société pacifiée.
Oui, je crois, après, moi, c'est ma perception. Je pense que, en effet, les enfants d'aujourd'hui, alors, je suis enseignante, donc j'en vois au quotidien, ils ont pas forcément conscience du fait qu'ils sont dans une France pacifiée depuis très longtemps. Les guerres qui se jouent à l'heure actuelle ou qui sont jouées dans les dernières années ou les dernières décennies sont lointaines. Souvent, ils savent pas qu'on est en guerre quand on l'est. ça leur parle pas énormément. Et c'est normal et c'est tant mieux. Hein, on va pas. C'est bien que nos enfants puissent grandir dans ce sentiment-là. Et pour autant, ce serait bien dommage qu'ils se rendent pas compte que la guerre existe quand même ailleurs, que la France est en guerre ailleurs, et que ce danger-là, si eux n'en ont pas conscience, ils risquent de retomber dedans, tout simplement.
Bah, disons qu'il y a beaucoup d'adultes qui s'en rendent pas compte non plus. Hein.
Alain, on a, on l'a dit, tout cet aspect alors qui finalement mêle différentes époques historiques dans cette uchronie. On parlait du côté très pédagogique de ce que font Paul et Silène. Justement, comment on aborde peut-être le suivi d'un livre comme celui-là auprès du jeune public à qui il est dédié? Parce qu'il faut quand même, dans une uchronie, il faut quand même avoir les notions historiques, j'allais dire, réelles, pour arriver à repérer justement où est l'Uchronie.
Oui, tout le problème de l'Uchronie pour les enfants, c'est qu'il faut qu'effectivement le fait historique qui va diverger dans l'histoire soit compréhensible. Si je parle de René Coty qui a ouvert une porte ou qui n'a pas fait ouvert, les gamins, ça ne va rien leur dire. Bon, si on parle de Napoléon, Jeanne d'Arc, Hitler, bon, et la guerre de 14, bon, là, avec tout le background qu'il y avait, ils en avaient un peu conscience. Donc c'est déjà ce point-là. Après, l'Uchronie, c'est où on place son point de regard. C'est-à-dire qu'on a le point de divergence, hein, là d'un seul coup ça change, mais on le met 6 mois après, 1 an après, 20 ans après, 100 ans après. Et forcément, plus on va loin, plus la divergence est immense. Donc plus la différence entre notre réel et le réel inventé est différente. Ensuite, on s'aperçoit souvent que les auteurs écrivent des uchronies optimistes parce que le livre est pessimiste. Ça paraît compliqué comme ça, mais ça montre aux gens qu'en disant, voilà, il y a une autre histoire alternative et elle était bien plus sombre que la nôtre. Donc, ouf, nous, on est sur la bonne branche. Donc souvent, on fait ça. Pourquoi ? Parce que l'auteur, lui, il a envie de raconter une histoire un peu dystopique, là, et puis parce qu'il y a plus de ressorts d'écrivains. Et en même temps, donc, il y a cette histoire d'histoire pour dire oui, on change. Mais
le bonheur est ennuyeux, quoi, voilà, grosso modo.
Voilà, il faut mieux faire une dystopie qu'une utopie. C'est, pour un auteur, c'est plus facile.
Et du coup, il n'y a pas eu l'envie, peut-être, d'accompagner le livre avec. Un petit cahier, ne serait-ce qu'une chrono, enfin non, pas particulièrement.
Non, parce que bon, moi je veux qu'avant tout ce que j'écris, les gens, les enfants aiment ou aiment pas, mais le plaisir de la lecture. Si à chaque fois il faut.
Je pense que ça doit aller parce
que
ça va vite.
Notice de montage Ikea, ça m'intéresse pas trop vraiment. Quoi.
En tout cas, c'est un vrai thriller, donc on se laisse bien emporter. J'imagine que le public.
Oui, avant tout, c'est une bonne histoire qu'il faut faire. C'est ça qui intéresse les enfants. Après, ça les intéresse un peu plus le background, mais c'est pas forcément ça qui va peut-être plus séduire des fois un adulte qui va par l'idée de départ. Donc non, eux, ils veulent que ça se passe, qu'il y a de la bagarre et ainsi de suite. Donc ça dégage.
Charlotte Bousquet, dans Là où tombent les anges, il y a les personnages centraux dont on a déjà évoqué certains, Solange, Lily dont on a parlé, qui peut-être rejoint le projet initial puisque c'est elle aussi qui va aller vers l'Argentine à un moment du roman. On a Constance, c'est
Clémence.
Ça Clémence. J'ai du mal avec les noms des personnages. Avec Clémence, qui elle, alors pour le coup, est peut-être celle qui a la vie la plus harmonieuse, on peut dire ça comme ça.
Clémence et du coup Pierre. Pour moi, sont alors à la fois le couple, enfin le oui, c'est harmonieux, c'est positif, et c'est en même temps, je dirais, le personnage pour moi le plus classique. Elle tombe amoureuse d'un instituteur qui part au front, qui va revenir ou pas. J'essaie de spoiler et de pas spoiler justement. Et effectivement, elle a un parcours qui est très classique, mais pour moi qui a été extrêmement reposant. Tout en ayant quand même des moments pas faciles, puisque c'est elle qui travaille en même temps en usine, qui survit à une explosion, parce que tout simplement, elle est, étant enceinte, elle est arrêtée. Mais donc, dans le 13e arrondissement, en octobre 1915 ou 16, je crois, l'usine des Gobelins fabriquait des grenades et ils n'avaient aucune précaution et paf, ça explose. Et voilà. Et donc, il y a eu je ne sais combien de
pertes. Et on leur a reproché à elle, ouvrière, d'être responsable de l'explosion, parce qu'il y avait forcément des espionnes dans le lot.
Voilà, c'est ça.
Alors, on a évoqué tant Emma, mais il y a d'autres personnages plus secondaires qui sont aussi très intéressants. Il y a Marthe.
Oh oui.
Il y en a encore une cinquième que j'ai oubliée.
Olga.
Oui, voilà, entre autres.
Ouais, et il y a et Blanche.
C'est ça, c'est Blanche. C'est Blanche que je cherchais. Il faut que je prenne des notes un jour. Parce que...
Alors Blanche est mon lien avec l'aspect, on va dire, intellectuel et mondain. Et de la Belle Époque et de la Première Guerre mondiale. Blanche est une bourgeoise lettrée qui a énormément d'admiration pour Nathalie Barnet, donc qui est une personne réelle, hein, Nathalie Barnet qui a été qui était poétesse, femme du monde, qui a été aussi l'amour de la vie de René Vivien, de la poétesse René Vivien. Et qui a passé plus de 50 ans avec, et là c'est moi qui ai un gros trou de mémoire, Gabrielle Kerr, la peintre Gabrielle Kerr. Donc, et qui pendant la guerre, en fait, tenait salon et recevait à peu près tout le monde. Et donc Blanche, en fait, va elle aussi créer son salon pendant cette période où elle reçoit effectivement donc Olga qui est une danseuse, Gabrielle Kerr donc la peintre, elle va recevoir aussi un peu plus tard Proust, et alors là c'était juste un plaisir d'auteur parce que Proust était quelqu'un qui vivait la nuit et qui de toute façon se déplaçait la nuit, donc aller passer une matinée chez Blanche, non c'était pas possible, mais je me suis juste payé ce petit luxe, c'était très agréable, et qui va aussi recevoir des féministes alors pacifiste, donc ce qui était aussi pendant cette période d'être pacifiste, c'était passible de prison, et aussi de Adrienne.
Ça tombe bien parce que j'ai trouvé le personnage qui me manquait.
C'était
alors,
Adrienne.
Ça n'était pas un effet du tout préparé puisqu'on vient de parler de Proust, mais c'est Madeleine.
Madeleine, il y a un personnage qui s'appelle Madeleine.
Il y a un personnage qui s'appelle Madeleine, qui justement est la pacifiste.
Ah mais oui. Madeleine, mais oui, bien sûr, parce qu'entre deux, en fait,
vous voyez qu'on arrive quand même à oublier un personnage qui s'appelle Madeleine. Oui.
Voilà, voilà, voilà. Et donc, qui est ma pacifiste, effectivement, qui, elle, est une journaliste engagée au départ par l'Humanité et par d'autres journaux, qui va se retrouver au fur et à mesure, donc jusqu'en 1917, où elle est emprisonnée, complètement mise de côté, et en même temps, qui va être la personne qui va permettre à Solange de devenir journaliste. Et en fait, il y a vraiment tout ce côté-là. Et donc, Madeleine et ensuite Solange vont effectivement se pencher sur le cas des femmes. Donc, des femmes à qui, au départ, donc jusqu'en 1915, en gros, l'avortement était plus ou moins toléré si la femme avait été violée par un soldat allemand. Voilà. À partir de 1915, on a commencé à se dire, ouais, mais en même temps... En gros, élever un gamin dans la culpabilité, c'est repeupler la France avec des gens qui n'auront qu'une seule envie, finalement, c'est de se faire pardonner du crime qu'ont commis leur père. Et en fait, Madeleine va dénoncer tout ça et se retrouve donc en prison pour pacifisme et finalement, le fait d'être une mauvaise Française. Est-ce que c'était ça dont vous vouliez
c'est
parler ?
C'est exactement ça. Voilà. Et juste un petit mot sur Marthe, quand même, que j'ai évoqué, oui. Parce que c'est la seule des personnages qui, elle, va... Alors, féminin, j'entends. Qui va connaître... qui va être au front.
Avec Lily.
Avec Lily, exact.
Oui.
Oui, parce que Lily fait la tournée, remonte le moral des troupes.
Voilà, qui était aussi quelque chose de très important. Donc, il y a évidemment, dans la réalité, il y a Sarah Bernhardt, il y a Miss Tinguette qui ont été, et puis plein d'autres femmes qui ont été jouées et chantées pour les soldats. Donc, Lily, de retour d'Argentine, se découvre une passion patriote et décide d'aller chanter effectivement pour les soldats sur le front. Et Marthe, en fait, devient conductrice d'ambulance. Donc, elle n'est pas infirmière. Parce qu'il y a aussi tout ce mythe de l'infirmière qui est vraiment née à cette époque-là. Mais Marthe va conduire des ambulances sur le front et voir l'horreur au quotidien de ce qui se passe, de gens qui sont effectivement mutilés et qui n'ont d'autre choix que se battre ou être fusillés, comme tu disais tout à l'heure. Quoi. C'est... Oui.
les femmes au front, il y avait d'autres femmes, il y avait des femmes qui quittaient tout pour essayer de rejoindre leur mari, et ne sachant pas dans quelle unité elles sont, où étaient ciblées et tout, enfin, elles faisaient ça. Et sans parler donc des femmes qui étaient en BMC, c'est-à-dire les bordels militaires de campagne, et là aussi, il y avait du monde.
Et j'en parle aussi, effectivement.
Il y a un aspect dont on n'a pas parlé encore, on en a parlé avec Silène et Paul, c'est que c'est aussi un roman épistolaire, d'une certaine manière, Là où tombent les anges.
Oui. En fait, c'est comme c'est une chronique sur 8 ans, quand même, j'avais envie, déjà, enfin, la narratrice principale est Solange, j'avais aussi envie de donner de la place aux autres personnages, moi de respirer un petit peu, parce qu'être dans la peau de Solange pendant 8 ans, c'était un petit peu, enfin, là, c'était pendant 8 mois, mais c'était un peu compliqué. Et ça me permettait aussi d'aborder cette période à travers d'autres regards, à travers celui de Pierre notamment, qui lui se retrouve sur le front au quotidien et témoigne de ce qui se passe, à travers Lily qui, avant la guerre et puis ensuite pendant la guerre, fait ses tournées, à travers effectivement d'autres. Et ça permet aussi de faire avancer l'histoire.
Silène et Paul, 14-14, c'est aussi la découverte de la famille d'Adrien avec un H. Qui, on le voit, est assez complexe également et importante finalement dans les événements qui vont se dérouler au fur et à mesure de la correspondance. Il est à cheval finalement sur 2 milieux sociaux. Pourquoi avoir fait un personnage qui soit comme ça, fils de paysan mais petit-fils d'industriel ?
Parce que on avait cette envie de. Adrien, il veut aller au lycée, il veut poursuivre l'école, hein, ce qui était assez étonnant, parce que déjà les enfants allaient à l'école, c'était étonnant. La génération d'avant n'y allait pas, et lui, il veut aller plus loin que ça, il veut continuer. C'était pas une idée commune. Donc le fait qu'il ait un grand-père qui lui était d'un milieu bourgeois, petite bourgeoisie, hein, il avait une ou deux sucreries, c'était pas non plus un homme richissime, et que du coup par sa mère Adrien ait ce goût, cette curiosité, ça le motive pour poursuivre, pour continuer. Il sait qu'une autre vie est possible pour lui que de reprendre la ferme, et c'est le conflit avec le père, parce que le père lui métayait n'ayant pas de ferme à lui, épouse cette femme donc qui n'est pas de sa classe sociale, et se dit mon fils va avoir une ferme à lui, il sera propriétaire, qu'est-ce que je peux souhaiter de mieux pour lui, et il ne comprend pas qu'Adrien lui veuille encore faire quelque chose de plus, dont le papa ne comprend pas non plus que ça puisse être mieux. Qu'y a-t-il de mieux que d'être son propre patron dans sa ferme, plutôt que d'aller en ville, de prendre des risques, pour faire quoi ? Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et moi, là-dedans, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait celui de 1914. Du côté de ma mère, mes grands-parents sont des paysans sur des générations. Moi, ma grand-mère, elle a arrêté l'école après le brevet, après le certificat, parce qu'elle avait mal à la tête. L'école, soi-disant, ça lui faisait mal à la tête. Enfin, c'est pas vrai. Quand j'étais petite, elle me disait ça, je me disais, oh là là, on peut arrêter l'école parce qu'on a mal à la tête. Elle a arrêté l'école parce que, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Son père était mort des suites de la Seconde Guerre mondiale. Fallait continuer. Elle avait 18 ans. Fallait travailler. Et mon grand-père, ça a été pareil. Hein. Lui, il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale ce passage. Il a eu son certificat. Il a failli partir parce que il avait presque l'âge. Il s'est mis au travail parce que c'était obligatoire. Son propre père était mort des suites de la Première Guerre. Donc forcément, le fait qu'il y ait ces deux conditions sociales différentes, ça explique ce ressort-là. Et puis ça fait ressortir par contraste cette envie de poursuivre ses études qui était très étonnante à l'époque et qui est tellement normale aujourd'hui que souvent les jeunes gens ne l'interrogent plus.
Et il y a un autre élément, c'est que ça fait un ressenti par rapport à l'existence d'Adrien sans H, qui lui fait partie d'une famille où le père est absent. Il a la sensation, alors peut-être que je me trompe, mais à travers ce que lui raconte l'autre Adrien, qu'en face, il a une famille soudée, unie, même s'il y a des accrochages, même si ça ne se passe pas bien. Mais en tout cas, il y a une famille complète que lui n'a pas et qu'il a du mal à affronter, finalement. Parce qu'on le voit en conflit avec un père qui apparaît de temps en temps.
Oui, c'est une des différences entre les deux époques, 1914-2014. À l'époque, les divorces étaient extrêmement rares. Aujourd'hui, c'est quand même monnaie courante. Divorce ou séparation, parce que les gens ne sont pas forcément mariés. Pour l'Adrien de 2014, un père, c'est une image sur Skype tous les 6 mois, qui oublie l'anniversaire de sa sœur. Et l'image que lui renvoie Adrien avec H, c'est celle d'une famille heureuse et unie, alors que Adrien, lui, avec H, est confronté à un père qui n'a pas de mauvaises intentions, mais qui s'oppose totalement à son désir d'émancipation et d'école, enfin de lycée, et à sa vie rêvée d'ingénieur. Donc c'est une manière de confronter deux époques en disant il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais les choses ont évolué.
Non, je vais faire le modérateur. Mais je peux
t'interroger. Mais je t'en prie.
Mais comme tu t'arrêtes au mois d'août, tu ne peux pas savoir si cette famille-là ne va pas éclater vraiment, puisque la disparition des hommes et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, cette famille qui paraît soudée actuellement, elle va voler en éclats quelques mois après, pendant les années de guerre, peut-être.
Alors, un modérateur, ça lit les livres.
Voilà. Oui, absolument.
Je ne sais pas comment tu vas répondre, là, pour le coup.
C'est vrai qu'en 1914, il y a eu beaucoup de pères, enfin, en 1918, beaucoup de pères absents. Donc, évidemment. En l'occurrence, on sait que ce ne sera pas le cas d'Adrien.
Oh, c'est très habile. Bravo.
En fait, il a la charge de la famille nombreuse parce que le fait de pouvoir partir de Corbeny, ça lui permet d'avoir d'autres enfants. Et donc, il passe entre les lignes grâce à ça aussi dans notre histoire. On ne raconte pas la suite. Souvent, les jeunes lecteurs ils nous disent « Ah, si vous racontiez la suite ». En fait, la suite, en effet, ce serait plus réaliste que le père, de toute façon, parte au front, même si c'est sur la fin, parce que sur la fin, même les chargés de famille nombreuses partaient aussi hein, et meurent. Donc on leur raconte pas la suite, voilà, on passe dessus, mais c'est le cas et c'est vrai que c'est pas par angélisme, hein, comme je disais, moi c'est quelque chose qui me touche d'autant plus que voilà mon arrière-grand-père il est rentré, mais il est rentré blessé et puis il en est mort 10 ans après, mais voilà, on avait une charge forte déjà d'un point de vue émotionnel avec le décès d'un enfant. Et on termine bien en disant que le baba a survécu. Voilà.
Puis il y a quelques éléments dont on n'a pas parlé ici, hein, qui aussi renforcent, donnent de la force à cette histoire, parce que ce n'est pas non plus totalement l'effet du hasard ce qui se passe, donc on ne va pas en dire trop non plus, mais Alain, je t'encourage. Bon, on va finir avec Alain Grousset, justement, parce qu'on a ce contraste très violent, on l'a dit, enfin très violent, très marqué en tout cas, entre. Ces deux pays, France et Allemagne, qui donc sont restés figés littéralement dans leur époque un siècle auparavant, alors que le monde autour a évolué. Mais effectivement, ils ne sont pas non plus coupés du monde. Ça veut dire que dans cette intrigue qui se noue, les enjeux ne concernent pas que la France et l'Allemagne. Derrière, il y a aussi les autres pays. Il y a quand même aussi, là encore, un lien avec l'histoire telle qu'elle s'est véritablement déroulée. C'est qui va prendre le leadership de la planète.
Toute la construction de l'Europe derrière aussi, qui pour l'instant est complètement figée. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est cette espèce de mur imaginaux, c'est de s'apercevoir qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de murs sur Terre.
Et un mur qui est gardé par des moyens technologiques absolument ultra modernes, même à nos yeux, nous, de lecteurs de 2014-2016.
Oui, parce que si tu mets tous tes efforts dans un armement et tout, tu vas forcément aller plus loin. C'est comme la recherche et ainsi de suite. Si on recherche, c'est exactement ce qui s'est passé au moment où on a voulu, l'Amérique a absolument voulu aller sur la Lune avant les Russes. Ils ont mis tous les moyens et on y est arrivé. Donc voilà, c'est ça, c'est une histoire de volonté. C'est là où on pousse ou pas dans une telle ou telle direction la société. Mais voilà, ça m'a intéressé aussi de voir que bon, la société est en train de faire des murs et puis là, on est en train d'en construire en Europe même pour empêcher les migrants de passer. Ça y est, c'est parti. Il y a Donald Trump qui veut les faire payer par les autres. Enfin bon, on est dans un monde de murs.
Et là, justement, on est avec... à l'intérieur de cette intrigue, voilà, il n'y a pas que les enjeux franco-allemands, il y a aussi derrière, à partir de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais finalement, voilà, il n'y a pas que les Français ou que les Allemands qui sont intéressés par ce qui est en train de se préparer peut-être du côté allemand.
Oui, parce qu'ils ont pas des intérêts stratégiques évidents. si vous mettez un cratère en pleine Europe d'une bombe atomique, ça va quand même changer un petit peu les choses. Bon, on a vu ce que ça a donné pour Tchernobyl. Là, si c'est sur Paris, ça va coincer un petit peu quand même.
Et puis ça donne, là aussi, on parlait de construction de l'Europe, mais on est aussi là encore dans la guerre froide avec la politique de dissuasion atomique.
Tout à fait, monsieur le modérateur.
Je t'en prie, monsieur l'auteur. Ben voilà, on va terminer là-dessus. Vous voyez, on essaye de pas trop en dire non plus, parce qu'en plus, là, c'est un thriller, donc c'est quand même faire attention. Et puis, même pour les autres, il faut qu'on vous laisse découvrir ces livres si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les lire. Mais vous voyez qu'à partir de ce conflit, incontournable, évidemment, et surtout en ces périodes de célébration, et on en a encore pour 2 ans, et ben, vous voyez qu'on arrive à traiter sous des aspects différents. Un élément qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est qu'on a là 3 romans qui sont plutôt dédiés à un public jeunesse, hein, puisque même pour Charlotte, soit... Voilà, c'est pour les lycéens et les adultes. Et bah voilà, c'est peut-être aussi un bon moyen de mettre un pied dans l'histoire et puis peut-être après de creuser et de s'intéresser un peu plus largement.
Je voulais juste rajouter quelque chose. Je me demande si ce centenaire de la guerre 14 n'est pas le feu d'artifice final. Il me semble, moi, que ça va être fini. Vraiment, après, pour la nouvelle génération, ça y est, terminé, rangé définitivement dans les livres d'histoire, je pense.
Et je crois que du coup, d'un point de vue littérature de jeunesse, il y a eu beaucoup de choses, hein, sur la guerre de 14 jusqu'à présent. Et puis on peut citer Michael Morpurgo parmi les plus grands qui en ont traité. Moi, ce qui m'étonne là, avec le centenaire et la floraison de textes qui sont proposés, c'est que de fait, la plupart des auteurs dont nous ici, on s'est demandé comment on pouvait l'aborder différemment, parler de choses qui n'avaient pas forcément été abordées. Non pas par intérêt commercial, mais justement en se disant bon, bah, là on peut, on a des formes littéraires qui peuvent être intéressantes, on peut faire ressortir d'autres choses et une espèce de modernité, il y a une modernité importante, je trouve, dans ce qui a été proposé pour ce centenaire en jeunesse, donc je trouve ça particulièrement intéressant.
Très bien, et puis on peut peut-être vous encourager aussi à lire les textes pour le coup de ceux qui ont connu les tranchées et qui ont écrit par la suite, hein, que ce soit du côté français ou du côté allemand, parce qu'il y a aussi beaucoup de livres qui sont, beaucoup de classiques qui ont été édités. Quelques-uns quand même.
Est-ce que du coup je pourrais
parler? Mais je t'en prie.
En fait, c'est pas un roman ni un essai, c'est une bande dessinée qui s'appelle Mauvais Genre, qui est de... Alors là, j'ai un gros trou de mémoire. Qui est paru chez... J'ai aussi un gros trou de mémoire, mais qui est absolument merveilleuse, qui raconte en fait l'histoire d'un déserteur pendant, donc, qui est à Paris pendant la guerre de 14, qui finit par se travestir et perdre complètement son identité. Et c'est un roman graphite absolument merveilleux.
Je pense que vous retrouverez facilement les coordonnées parce que ça a été ultra primé un peu partout.
Et à juste titre, c'est vraiment voilà. Très, 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 très percutant, très beau. Voilà.
Ben voilà, comme ça, vous avez donné plein d'idées. Et puis, vous pouvez évidemment retrouver les auteurs sous la cocotte minute du livre, sous l'autocuiseur du livre, pour quelques dédicaces ou conversations. Enfin, si vous voulez converser, essayez peut-être d'aller à la terrasse plutôt, ça sera plus agréable pour tout le monde. Merci beaucoup.